En fait, on n'était pas très haut en altitude, mais tu avais l'impression d'être vraiment en haute montagne à 4000 mètres d'altitude. C'était impressionnant. Le vide, il y a des passages. Je me disais, mais si tu glisses là, c'est terminé, tu t'en sortiras pas. Tu pouvais évoluer des fois sur des portions de 2 heures, 2, 3 heures, sans jamais voir personne. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que je prenais énormément de risques, que là, on n'était plus dans une course où tu es dans un dépassement en termes de performance, mais tu es plus dans une prise de risque, un danger hein, pour ta vie, simplement, quoi. Plus de lumière, plus de montre, plus de téléphone. J'étais seule au monde, dans un environnement, je ne savais pas du tout où j'étais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait?
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour ce deuxième épisode, je vous propose d'embarquer en compagnie de la formidable Cici Cusso pour partir à la découverte de la Patagonie à l'occasion de l'Ultra Fjord. Un ultra sur le papier à la pleine mesure de Cici, dans un cadre qui s'annonce idyllique. Mais vous le découvrirez dans cet épisode, cet ultra a été loin d'être un long fleuve tranquille pour elle.
Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute!
Hello Sylvain, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique.
Salut Guillaume, merci à vous de me recevoir.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore?
Oui, bien sûr. Je m'appelle Sylvaine Cusso, j'ai 38 ans depuis tout juste quelques jours.
Bon anniversaire.
J'ai fêté mon anniversaire en confinement, merci. J'habite dans le Gard à Uzès, plus particulièrement. Je suis mancelle, puisque je suis née au Mans, en Sarthe, où j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. J'ai fait un passage sur Angers, où j'ai fait une classe préparatoire pour intégrer ensuite une école de commerce à Toulouse. Voilà, et j'ai passé quasiment 10 ans de ma vie sur Toulouse. Voilà, la ville rose, une partie de ma vie que j'ai beaucoup appréciée. Avec un premier job en ressources humaines, j'étais responsable recrutement dans une société d'ingénierie informatique pendant 7 ans.
D'accord.
Qui s'appelle CELAD. Voilà, je faisais principalement du recrutement d'informaticiens. Et puis, j'ai changé complètement de job. En fait, j'ai fait un virage professionnel, un virage personnel aussi, puisque j'ai aussi déménagé et je suis arrivée dans le Gard à Uzès en changeant de travail et j'ai intégré la société Iron.
Donc, vous êtes rapprochée de ta passion pour le running et pour le trail?
Alors, la raison première, c'est un rapprochement de conjoint, enfin, ouais. De mon compagnon, parce qu'à l'époque, on n'est pas mariés d'ailleurs, toujours pas, mais en tout cas, voilà, c'était l'envie de me rapprocher de lui et puis de sa petite famille. De sa petite famille puisqu'il a deux enfants et en fait tout a concordé. C'est à ce moment-là que j'ai aussi décidé de me mettre au trail running. Le terrain s'y prêtait beaucoup plus ici hein, parce que Toulouse, j'habitais en centre-ville, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour pratiquer le trail running, alors que ici dans le Gard, voilà, j'ai 2 kilomètres à faire et je suis vraiment en pleine nature avec des cailloux et tout, donc voilà, tout a à peu près coïncidé. Après, j'ai toujours fait de la course à pied, mais c'est vrai que le trail, je me suis...
Jeune, hein. C'est ça? Tu t'es
ouais,
par la
ça,
clé et puis
c'est
tu as
ça.
passé à la course sur route ensuite, c'est ça? Jusqu'à arriver au trail plus
Exact,
tardivement.
exactement, ouais. J'ai toujours couru. J'ai commencé à l'âge de 6-7 ans. J'ai pris une première licence d'athlétisme à l'âge de 10 ans. Et puis, en fait, j'ai jamais arrêté. Après, j'ai été piquée par le virus. Et aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. J'ai besoin du sport et de la course à pied pour mon équilibre. Et c'est vrai que j'ai commencé par la découverte d'un peu toutes les disciplines de l'athlétisme, hein, la piste, tout ce qui est autour de la piste, bien sûr, tout ce qui est saut, lancer, tout ce qu'on fait quand on est jeune. Les crosses, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les crosses. Jeune, et puis même plus tard, hein, quand j'étais à Balma au club de Toulouse, c'est vrai que c'était vraiment des bons moments passés sur les terrains de cross avec les copines. Et puis de la route, oui, c'est vrai que j'ai fait un peu toute distance sur route, du 10 km en allant jusqu'au marathon, en passant par le semi, et puis voilà, des courses en relais, un peu ludiques, équidènes. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais une pratique qui était vraiment orientée sur le plaisir avant tout, le partage avec quelques compétitions, parce que ça faisait vibrer aussi. Et puis ça donne aussi des objectifs, mais moins de recherche de performance et un entraînement un peu plus à l'envie, quoi.
D'accord. Et sur le trail, tu as un format de prédilection ou est-ce que justement tu as envie de varier les plaisirs et les distances pour pimenter un peu tes saisons et leur donner du relief?
Alors, c'est vrai que j'aime bien. Alors, je me suis essayée sur un petit peu toutes les distances. J'ai essayé de prendre mon temps dans l'apprentissage de la discipline. C'est vrai que c'est ce que je recommande beaucoup aussi aux gens qui débutent. Je ne suis pas allée directement sur des épreuves de 50, 60 km. J'ai commencé par des distances de 20, 30, parce que bah, voilà, quand on passe du plat au dénivelé, c'est un autre effort. Donc, je pense que c'est important de laisser le temps à son corps d'appréhender l'effort et la discipline. Mais c'est vrai qu'en augmentant la distance, je me suis rendu compte que j'étais vraiment plus à l'aise en fait sur des distances de 50, 60 voire 80 km, tout simplement parce que je suis pas une rapide. Par contre, j'arrive à garder des bonnes allures sur du long quoi. J'ai pas forcément de grosses baisses de régime qui fait que voilà, j'arrive à tirer mon épingle du jeu sur ce genre de distance, mais j'apprécie quand même revenir sur du 30 km, sur certaines compétitions. C'est vrai que on peut pas dire que j'ai vraiment de distance de prédilection, mais c'est vrai que je m'en sors un petit peu mieux sur le long parce que du fait que je suis pas très rapide, quoi.
Et tu t'interdis pas de retourner sur des 170 km ou des formats type UTMB ou... Mon Fuji, je pense que c'était sensiblement les mêmes distances. Voilà, c'est des formats qui t'appellent aussi ou c'est presque trop long?
Non, tout à fait. C'est vrai que je me suis essayée sur de l'ultra ces deux dernières années. En 2018, j'ai participé au Mute, puis à la TDS, qui sont déjà des belles épreuves de 120 km. J'ai beaucoup aimé, donc ça m'a donné l'envie l'année dernière, en 2019, de me lancer sur le 100 miles. Le 100 miles, c'est quand même la distance un peu mythique du trailer, et même si c'est pas une fin en soi, on a tous envie de s'y essayer parce que l'inconnu, ça fait toujours, ça attire, et voilà, on a envie de voir comment on vit les choses. Donc je me suis lancée l'an dernier sur l'Ultra Trail du Mont Fuji en avril et l'UTMB en août, deux courses que j'ai terminées. Et bon, ça a été difficile. De toute façon, je pense qu'un 100 miles, on peut difficilement terminer en disant j'ai pas eu de douleur, j'ai pas souffert. On est forcément dans des passages douloureux de temps en temps, mais globalement c'était des belles expériences. Effectivement, ça m'a donné envie de renouveler sur cette discipline. Après je suis quand même prudente sur les enchaînements de ce genre de distance, tout simplement parce que le corps, c'est brutal et douloureux pour le corps, et je pense que les enchaîner, c'est pas forcément très bon. Donc j'avais prévu cette année d'aller sur la Diagonale des Fous, parce que c'est aussi une épreuve qui me fait envie. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont conseillé d'y aller pour l'ambiance, parce que c'est quelque chose à part. Donc pareil, c'est une épreuve que j'ai envie de vivre une fois dans ma vie de traileuse. Après, j'ai envie d'y aller aussi préparée pour donner le meilleur de moi-même. Donc si j'arrive à me préparer, parce que là c'est vrai que les circonstances sont un petit peu particulières, mais si j'ai les moyens de me préparer pour cette année, il sera possible que je m'y essaye en octobre.
Jolie perspective, effectivement.
Et ouais.
Petite séance d'autodiagnostic, c'est quoi selon toi tes principaux atouts dans ta pratique à haut niveau de ce sport, et à contrario peut-être les zones sur lesquelles toi tu as l'impression que tu as besoin de consacrer un peu plus de travail?
Alors, peut-être que mes points forts, c'est mon cerveau, ma tête, mon mental. Il est très, très rare que j'abandonne une course. Hein. J'en ai abandonné très peu dans toute ma vie. Les rares courses que j'ai abandonnées, c'est parce que j'ai terminé à l'hôpital, parce que je me suis cassé un pouce, je me suis ouvert le menton, je me suis tordu une cheville et je ne pouvais plus marcher. Donc voilà, il y a vraiment des cas particuliers où je n'ai pas eu le choix d'abandonner. Mais c'est vrai que tant que je tiens debout, je me dis voilà, je me suis lancé le défi d'aller jusqu'à l'arrivée. Donc c'est vrai que je suis un peu têtue, c'est un peu peut-être mon caractère de taureau qui parle, et c'est vrai que voilà, le fait que je m'accroche et que je lâche rien comme ça, je pense que ça m'aide sur les ultras.
Parfois au détriment de ta santé ou pas, est-ce que ça peut être déraisonnable par moment, cette cette détermination?
Non, je pense pas, parce que par contre, je veux pas non plus. J'ai conscience que le but, c'est pas non plus de se mettre en danger, de prendre des risques pour sa santé. Donc, si vraiment je sentais que je prenais des risques, je pousserais pas la machine au bout du bout. Bien sûr que non. Après, c'est toujours compliqué en ultra et sur ces courses-là de trouver justement cette limite. On est toujours en train de la chercher, cette limite. On se dit, on pousse le corps, et au moment où on se dit attention, là il y a danger, c'est vraiment pas évident de trouver cette limite. Mais je pense que jusqu'à maintenant je l'ai jamais dépassée. En tout cas, on en parlera après peut-être d'une course qui m'a justement fait comprendre que voilà, il y avait des limites et il faut faire attention de pas les dépasser. Mais non, c'est toujours j'essaye en toute intelligence, hein. Bien sûr, on n'est pas là pour risquer nos vies non plus.
Pour boucler cette petite intro, je te propose juste de faire un exercice qui s'appelle la basket chinoise. Donc c'est la logique du portrait chinois. J'imagine j'imagine que tu connais bien ça. On en a parlé très rapidement avant d'échanger là aujourd'hui. Tu m'as suggéré éventuellement de confronter toi ta propre perception à celle que peut avoir de toi ton entourage. Ça peut être intéressant de voir à quel point et s'il y a un décalage entre la façon dont toi tu te vois et puis ton entourage très proche. La première question de ce portrait chinois et de cette basket chinoise, c'est si tu étais un personnage de fiction, qui ça serait et pourquoi ?
Écoute, moi je pense à Gaston Lagaffe, simplement parce que je suis un peu maladroite, malchanceuse il m'arrive toujours des poisses
galères,
en fait.
Pas méchante.
Ouais, des petites galères mais qui s'amusent toujours bien en fait. Ouais, et mes copains m'appellent, mes amis m'appellent beaucoup Gaston. D'ailleurs, ils m'avaient offert un t-shirt de Gaston. Enfin, voilà, c'est resté Gaston parce que, voilà, à la maison, je casse des verres, des assiettes. Voilà, il m'arrive que je renverse des choses. Un côté un peu maladroite parce que je pense tout simplement, je manque un peu de patience et je fais les choses un petit peu vite. Je suis un peu mon côté speed. Donc voilà, moi, j'aurais dit Gaston Lagaffe.
Et ça se ressent dans le trail ou c'est plutôt dans la sphère privée et, voilà, de l'inattention et de la maladresse au quotidien?
Non, écoute, ça se répercute aussi dans le sport, hein, parce qu'en course à pied, je tombe très souvent. Très, très, très souvent. Il est très rare que je fasse une course de trail sans tomber. Donc, j'ai plus de genoux. Hein, tu verrais mes genoux, c'est compliqué de me mettre en jupe.
Il y a un cas qu'on présente dans les écoles de médecine, c'est ça ? Regardez ces petits genoux, on n'a pas vu ça depuis 1906.
C'est un petit peu ça. Après, voilà, c'est toujours. J'ai eu quelques chutes graves, mais globalement, voilà, je m'en suis toujours bien sortie. J'ai chuté à vélo. C'est aussi ce que je redoute beaucoup parce que je fais du vélo et c'est vrai qu'une chute à vélo, ça peut être très grave. Je me suis arraché la fesse, mais c'était pas si grave que ça. Mais voilà, tu vois, c'est des petites. On appelle ça des petites gastonnades qui se terminent bien, mais qui pimentent la vie. Voilà.
Donc là, ton entourage est pleinement d'accord sur cette idée-là de Gaston.
Oui, ils sont tous à peu près d'accord. Ouais.
Et si tu étais un animal ?
Un animal, j'aurais dit le taureau. Le taureau, c'est mon signe astrologique déjà. Et puis, parce que voilà, je suis un peu de nature à un peu foncer tête baissée, certaines impulsivités dans ma manière de fonctionner. Je me retrouve assez bien dans mon signe astrologique, en fait. Je sais pas, à la base, je ne crois pas forcément à tout ça. Mais c'est vrai que quand je me penche sur ce qu'il dit sur les signes, je me retrouve pas mal dans ce signe. Donc voilà, j'aurais dit taureau. Voilà.
Une capacité d'écoute et de prise en compte des choses qu'on peut te dire pour éventuellement faire évoluer un point de vue que toi, t'aurais ou des convictions ou faut y prendre à plusieurs fois pour arriver à te faire entendre raison ou en tout cas des arguments contraires à ce que toi t'as en tête ?
Non, j'ai plutôt tendance à... Alors j'ai un côté un peu têtu, mais que je travaille. C'est vrai qu'avec l'expérience et avec la maturité, on change et il y a des erreurs qu'on ne fait plus après. Et c'est vrai que avec l'expérience, j'ai appris à écouter les autres et à prendre en compte les points de vue et à essayer de me remettre en question. C'est pas toujours évident, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Donc, à justement écouter les points de vue des autres pour remettre en cause le mien. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à le faire alors qu'avant, j'avais du mal à le faire. Ouais. Mais comme quoi. Tout le monde change.
On progresse tous jour après jour.
Oui, tout à fait.
Parfait. Et enfin, un film ?
Au niveau des films, j'aime tout type de films. C'est vrai que j'aime bien varier. Comme la musique, d'ailleurs. C'est vrai que j'aime rigoler. Donc, j'aime les films drôles. Et tu vois, je pense aux Bronzés. Et les Bronzés font skier aussi. Parce que c'est un film qui m'a fait beaucoup. Moins de trois, parce que...
Ça n'existe pas.
Ouais. Moi, après, je trouve que, tu vois, les 1, 2, 3, au bout d'un moment, ça fait un peu rabâcher. Et souvent, c'est le premier. Hein, quand il y a des séries comme ça, c'est souvent le premier qui est le plus mythique et celui qui fait plus rire. Mais voilà, j'aime bien les films aussi pour rigoler, pour se détendre. J'aime bien aussi l'action. Hein, j'aime bien quand t'es aussi un peu dans le suspense et tout. Mais de temps en temps, des choses un peu décalées où tu rigoles quand tu regardes des films avec d'autres personnes, je trouve ça sympa. Donc voilà, je pense à ce film-là. Tu m'avais bien fait rigoler.
D'accord, parfait. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on en sait un peu plus et puis on a peut-être eu un peu un regard différent aussi sur toi et ton parcours avec ces questions. On va parler maintenant de ta course épique. Pour ça, on va remonter un peu le temps jusqu'au printemps 2015 pour cette aventure assez mémorable que tu vas partager avec nous. Donc, direction le Chili pour cet épisode avec en ligne de mire la Patagonie, une destination qui est quand même assez fascinante. Elle évoque plein de choses, des grands espaces, de la diversité, la beauté de la nature, plein d'animaux. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses très positives qui évoquent la Patagonie. On va commencer par un petit instant court de géo sur la Patagonie. Je suis sûr que tu savais tout ça, bien sûr, mais voilà, elle est délimitée au nord par le Rio Colorado et au sud par le Cap Horn. Et la plus grande partie de la Patagonie appartient à l'Argentine et le reste au Chili. Voilà, on sait à peu près tout sur la Patagonie, en tout cas en termes géographiques. Mais j'ai quand même une petite question piège pour toi, avant que tu nous racontes ton aventure. Est-ce que tu as une idée approximative du nombre d'habitants qu'il peut y avoir au kilomètre carré en Patagonie ? Pas facile.
Alors, en toute honnêteté, j'en ai aucune idée, mais j'ai Google devant moi. J'ai un ordinateur, donc je peux chercher rapidement. Non, je vais pas te mentir, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, pour y être allée, c'est vrai que c'est assez désert. Hein. Donc, j'ai vérifié 5,4 habitants au kilomètre carré.
Eh bien, écoute, exactement. Ta source, elle est encore plus optimiste que la tienne. La mienne disait un habitant au kilomètre carré. Tu vois, c'était le
bouquin
qui racontait ça. En tout cas, si on veut mettre de la musique et faire une fête chez soi, je pense qu'on n'est pas prêt d'être dérangé par ses voisins, en tout cas. Je pense qu'ils n'en passent pas. C'est l'avantage.
C'est sûr.
En tout cas, je pense que ça plante un peu le décor et l'imaginaire de la Patagonie qu'on a, on a tous en tête. Donc, c'est dans ce contexte, a priori rêvé, que tu t'apprêtes à vivre la première édition de l'Ultrafjord. Et c'est 70 km et 3200 mètres de déplus, si je ne dis pas de bêtises. Donc, une course
qui est
tout à fait à ta mesure. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a décidé à participer à cette course ?
Oui, alors donc je suis partie pour cette aventure avec toute une équipe ASICS, notamment Laurent et Katia Ardito, qui étaient les managers du team à l'époque, et en fait qui sont des anciens raiders, donc de haut niveau. Hein, ils étaient en équipe de France, ils ont participé à des coupes du monde, ils avaient vraiment un gros niveau et ils ont fait notamment des raids en Patagonie. Ils nous ont beaucoup raconté leur péripétie là-bas, et c'est vrai que voilà, on voyait que c'était une aventure hors norme, mais ça faisait vraiment envie. Et puis on avait l'envie avec Xavier Thévenard, qui participait avec moi et avec l'équipe ASICS, et notamment la marque aussi ASICS, de faire voilà une opération de communication autour d'une course qui serait exotique, qui permettrait aux gens aussi de découvrir un autre univers, qui ferait un peu voyager. Voilà, découvrir d'autres horizons. Et forcément, on pensait à la Patagonie parce que Laurent et Cathy, qui géraient le team à l'époque, connaissaient très bien l'organisateur de cette course, puisque bah, ils ont fait à l'époque, ils ont fait des raids ensemble. L'organisateur de l'Ultrafjord, en fait, est un ancien raider de haut niveau également, donc c'est lui qui a lancé effectivement l'événement là-bas. Et de fil en aiguille, avec les contacts de cette personne, on a réussi à avoir l'invitation pour les dossards et à monter l'opération avec ASICS, et donc il a été convenu que Xavier parte avec moi. Donc l'idée, c'était voilà, de se laisser un peu guider par les choix de Laurent et Cathy, qui avaient vécu des aventures incroyables là-bas. Et nous, ça nous faisait vraiment très envie, et aussi le fait d'avoir l'organisateur qui a pu aussi nous aider pour y aller.
C'est une destination que toi, tu envisageais déjà, peut-être même à titre personnel, ou que t'avais, qui était un espèce de rêve particulièrement, ou c'était une destination parmi d'autres possibles ?
Alors franchement, pas du tout. Pas du tout. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup voyager. J'ai eu la chance à travers ce sport et grâce à mon travail de pas mal bouger. Ben c'est vrai qu'on se rend compte que plus on voyage et plus on a envie de voyager, on découvrir le monde. Même si c'est vrai qu'on peut avoir des très beaux paysages à côté de la maison, mais c'est vrai que donc quand on le fait une fois, on se dit ouais, c'était quand même bien et on a envie de revivre le truc. Donc j'avais très envie de faire une course à l'étranger et partir loin comme ça faisait envie. Mais non, la Patagonie n'était pas forcément dans mes destinations entre guillemets de rêve. Après, quand Laurent et Cathy m'ont présenté le projet, bien sûr, j'avais des étoiles dans les yeux, et j'étais jamais allée dans cette partie du monde. Donc, découvrir des endroits que tu connais pas,
difficile de résister.
Ouais, voilà.
J'avais mis en place une prépa spécifique pour cette Ultrafjord.
Oui, bien sûr. Je m'étais préparée pour une course de 70 km et 3002 de dénivelé positif. Donc, c'est pas un ultra en soi. Donc, c'est un peu moins d'investissement quand même au niveau de la préparation. Mais oui, j'avais suivi une préparation spécifique. En plus, j'étais sélectionnée cette année-là pour les championnats du monde qui se déroulaient à Annecy en mai. Un mois et demi après, c'est ça. Donc, j'ai quand même hésité dans le sens où je m'étais dit, est-ce que ça va pas me desservir pour les championnats du monde ? Est-ce qu'à l'inverse, ça va pouvoir m'apporter ? Bon, j'avais pris la deuxième option, ça va m'apporter, ça va me faire une dernière grosse course avant les championnats du monde. C'était un peu sans savoir ce qui allait m'arriver. Donc, en fait, ma préparation principale était axée sur les championnats du monde à l'époque, plus que sur cette course qui était pour moi une course bonus et plus une course de préparation, quoi, et un peu de découverte.
Et donc, si j'ai bien compris, le voyage pour arriver à destination, ça a déjà été en soi une sacrée aventure.
Oui, bah, la Patagonie, c'est pas la porte à côté. Donc, effectivement, ça a été un long voyage entre les trains, les multiples avions, ensuite les bus et puis les voitures de loc. Ouais, on a pas mal dormi dans les transports. On est arrivé très fatigué à destination, mais franchement, quand tu arrives là-bas, il suffit d'ouvrir les yeux pour te dire que ça vaut la peine.
Donc là, vous passez 3-4 jours sur place et puis à quelques heures du départ, vous commencez à vous plonger un peu plus spécifiquement sur les détails du parcours. Et là, des choses qui commencent à t'alerter peut-être sur la difficulté de ce qui vous attend.
Tout à fait, voilà. On a atterri à Punta Arenas. On est allé jusqu'à Puerto Natales, où on est resté quelques jours avec toute l'équipe. Puerto Natales, c'est à peu près 3 heures de route de Punta Arenas, mais ma mémoire est bonne. Déjà, c'est un endroit incroyable. On a commencé à reprendre un petit peu les footings pour se dégourdir les jambes là-bas. On était comme des enfants à découvrir les paysages. Et puis ensuite, on s'est rapproché de l'endroit du départ qui est en fait, autour du parc national de Torres del Paine. Et en fait, là-bas, c'est un endroit juste. Déjà, on trouvait que Puerto Natales, c'était incroyable. Mais alors, Hotel del Paine, c'est encore autre chose. Tu verras sur les quelques photos que j'ai pu publier dans mon récit. Mais c'était vraiment déconnecté du monde. T'es dans un endroit un peu comme dans les films, comme dans les documentaires. Et effectivement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre à ce moment-là. Mais on était plutôt dans une positive attitude où tu te dis, je vais partir pour une grande balade. Ça va être la découverte, on va évoluer dans cette nature aussi belle, ça va être chouette quoi. On a rencontré l'organisateur, les autres concurrents, et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on rentrait dans la préparation de la course, on se rendait compte que ça allait peut-être pas être si simple que ça, parce que il y avait des petits signaux qui nous montraient que les choses seraient peut-être compliquées, notamment le matériel obligatoire avec sur soi une trousse de secours hein, avec tout d'obligatoire pour se soigner seul si jamais il nous arrivait quelque chose.
C'est la première fois qu'on te fournissait autant de recommandations et de matériel pour un trail?
Ah oui. Alors, il y a toujours sur les ultras, de toute façon, il y a toujours beaucoup de matériel obligatoire. On le voit à l'UTMB. D'ailleurs, à l'UTMB, il y a aussi quand même des bandes pour éventuellement se strapper, des choses comme ça. Mais là, c'était encore un stade au-dessus. Donc, oui, c'est la première fois. Puis surtout que tu pars pour 70 km. Donc, c'est pas non plus un 170 km. Ça paraissait un peu excessif en fait par rapport à ce dont on s'attendait vivre. Donc bon, je dis bon, c'est pas plus mal. En même temps, ils prennent des précautions. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
On n'est jamais trop prudent.
On n'est jamais trop prudent, c'est ça. Sur le coup, bon, tu essayes plutôt de voir ça comme du positif. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'arrivait le moment du départ, il y avait une certaine tension en fait qui s'était installée. En plus, cours de circonstances un peu bizarres, le temps était passé au mauvais. Et le matin, à 5h du matin, quand on s'est levé et quand le jour s'est levé, il y avait une brume, un brouillard. C'était étrange, quoi.
Un peu anxiogène, oui.
Un peu anxiogène, oui, c'est ça.
Et sur la ligne de départ, donc toi, ça te pénètre un peu tout ce climat un tout petit peu oppressant ou en tout cas, peut-être pas hostile, mais pas aussi favorable que ce que tu imaginais. Est-ce que tu es imperméable à ça ou est-ce que tu commences à t'inquiéter ou de manière générale, sur une ligne de départ, tu es relâchée et tu es confiante sur ce qui va se passer et ta foi en ton destin?
Ouais, de manière générale, je suis pas de nature stressée et je pars toujours en me disant que c'est du bonus et que je suis préparée, qu'à partir du moment que tu es préparée, ça va bien se passer et puis ça va être du plaisir. Certes, il va y avoir un petit peu de souffrance et peut-être des moments difficiles, mais voilà, je pars toujours dans l'idée de me régaler et de faire une grande balade et voilà, j'essaie de relativiser les choses. Mais là, c'était vraiment particulier, même si j'étais quand même partie en tête de prendre du plaisir, il y avait quand même une certaine anxiété due à l'inconnu déjà, puisque tu es dans un territoire étranger. Le fait que ce soit aussi au niveau de la végétation très hostile, très rude, tu vois, ça, je pense que ça rajoute un peu de côté sombre à la chose. Et puis, il y avait peu de participants au départ quand même. C'était une course qui était assez limitée. Et puis après, il faut quand même pouvoir y aller hein, en Patagonie. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est un certain coût. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de participants. Et en plus, les coureurs du 100 miles étaient partis la veille. Et on a vu quelques informations et elles n'étaient pas très bonne en fait, il y a eu des coureurs qui n'allaient pas bien, on avait vu quelques images, bon, s'était dit, oulala, c'est le parcours, elle a l'air vraiment difficile. Donc, voilà, il y avait une petite tension. On attendait tous dans un hôtel au chaud avant le départ et on sentait qu'entre les coureurs, même entre les coureurs, voilà, il y avait une ambiance vraiment particulière.
Peut-être que le fait que ce soit une première et qu'il n'y ait pas d'historique ou de gens qui avaient pu la raconter ouais. avant, il y a une part d'inconnu supplémentaire. Xavier, il était sur quelle distance ?
La même distance que moi. Il a D'accord. fait aussi le 70. Ouais, c'est vrai que ça peut être effrayant, mais tu sais, quand c'est une première fois, souvent, t'es un peu à l'inverse, dans une certaine naïveté, qui fait que normalement, t'as un peu moins peur parce que justement, tu sais pas à quoi t'attendre. Et tu vois, moi, je me dis, si je refais l'UTMB un jour, peut-être que je le vivrai avec un peu plus d'appréhension parce que justement, à l'inverse, je sais la souffrance que c'est, voilà, tu vois, je sais exactement les moments que j'ai vécu. Et alors, quand c'est la première fois, c'est un peu la naïveté la première fois, quoi. Tu te lances, tu te dis, bon, on verra.
C'est comme le deuxième saut en parachute, apparemment. Moi, j'ai jamais sauté, mais il paraît que le deuxième est pire que le premier, puisque justement, tu sais un peu ce qui t'attend. Et la première fois, tu vas un peu voilà, en mode YOLO et sans trop savoir.
Ça m'étonne pas.
Et toi, on comprend que cette course, c'est pas le pic de ta saison et ton objectif principal, mais sur le départ, tu cherches la victoire, t'as ça en tête ou c'est vraiment pas le sujet ?
Non, c'est pas le sujet à ce moment-là. Déjà, je ne connaissais pas vraiment les concurrentes. Il y avait beaucoup d'étrangères. Je connaissais une Espagnole, Manuela, qui est costaud, hein, qui a fait vraiment déjà un beau palmarès sur des grandes courses. C'était la seule féminine que je connaissais vraiment. Bien sûr, étant invitée et aidée par Asics pour venir, c'était important pour moi d'être la plus performante possible et d'essayer de tirer mon épingle du jeu dans le classement, bien entendu. Mais c'était pas l'objectif premier. Et puis, tu sais, tu prends toujours le départ en me disant je vais faire du mieux possible. Mais mon objectif, c'était les championnats du monde au mois de mai. Et je voulais pas que cette course me desserve pour le mois de mai. Donc, je m'étais dit de toute façon... Le but, c'est pas de te mettre à l'envers, c'est pas de prendre des risques pour le mois de mai, c'est vraiment de faire une course pleine, de prendre du plaisir, de faire quand même le mieux possible, mais intelligemment, pour au mois de mai, arriver quand même avec toutes tes capacités. Parce que pour moi, c'est quand même l'objectif de la saison, c'était championnat du monde.
Et donc là, le départ est donné, et, les premières difficultés arrivent relativement vite, notamment avec une dimension aquatique importante, des premières rivières à franchir, voilà, la nature qui commence déjà à proposer pas mal de challenges.
Tout à fait. La première surprise du parcours aux alentours du kilomètre 2. En fait, on avait une rivière à traverser. Au départ, elle paraissait pas très compliquée à traverser. Puis en fait, tu mets un pied, tu te rends compte qu'elle est vraiment froide. Et puis, tout le monde hésitait un peu. Tout le monde se regardait. Vous êtes sûr, c'est vraiment par là? Oui, ouais, allez-y, c'est par là. Il y avait quelques spectateurs. Après, il n'y avait vraiment plus personne, mais là, on n'était que vraiment qu'au début du parcours. Il y avait quelques photographes aussi. Donc, l'eau, en fait, était hyper profonde, quoi. On avait l'eau quasiment jusque sous les bras. Et elle était vraiment froide. Et dehors, la température n'était pas très chaude non plus.
Donc, ce que j'allais dire, c'est l'hiver, non, c'est ça, cette période ?
Ouais. Alors, pas... Je crois qu'il faisait, dans les 9, 8 degrés, tu vois. D'accord. C'est pas non plus super froid. Mais bon, tu démarres la course déjà 8 heures du mat, trempé, déjà t'as froid. Tu te dis, oulala, ça commence pas très bien. Parce qu'après, tu sèches pas, hein, une fois que t'es trempé comme ça. Donc voilà, première difficulté, direct dans le bain.
C'est le cas de le dire, oui.
C'était pas ce qu'on trouve habituellement, en fait.
Et donc, tu fais, je crois que le premier point de ravitaillement est au kilomètre 16, si j'ai bien, si bien suivi le parcours.
C'est ça.
Et là, tu te retrouves, je crois... commence à te retrouver un peu seul, ça commence à se clairsemer un petit peu autour de toi et la pluie commence à s'en mêler.
Alors oui, il faisait dès le départ, de toute façon, il faisait pas très beau et les prévisions n'étaient pas très optimistes. Donc on s'était attendu à prendre le mauvais temps. J'avais prévu une veste que j'ai finalement mise très rapidement, mais ça m'a empêché d'être quand même trempée. Mais c'est vrai que déjà on était très peu nombreux au départ et puis les écarts se sont très vite creusés. J'ai fait un petit bout de chemin avec des garçons. On essayait au maximum de rester groupés, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, chacun prend son rythme, hein, sur 70 km. Tu peux pas non plus attendre les autres. Donc rapidement, je me suis retrouvée seule et rapidement dans des difficultés avec un terrain très très boueux, très très instable, un balisage pas très précis non plus. C'est vrai qu'il y avait des fois où je me demandais si j'étais sur le bon parcours, avec une visibilité réduite parce qu'il y avait aussi pas mal de brouillard. Et je me souviens à un moment être tombée dans un trou, être enfoncée jusque la taille à peu près. Et en fait, impossibilité de me sortir du trou.
D'accord, ouais, c'était un gros trou jusqu'à la taille, oui.
Oui, c'était vraiment un gros trou. Et voilà, c'était que des petits trucs comme ça jusqu'au ravito où je me disais, ça va pas être simple. Mais bon, c'était des difficultés qu'on voit nulle part, mais c'était pas non plus insurmontable. Donc, c'est inconfortable, t'as froid, t'es vraiment dans un inconfort, mais tu te mets pas trop en danger encore. Mais voilà, il y avait quand même.
Ça laissait présager d'une suite peut-être compliquée.
Du coup, je prenais même pas de plaisir en fait. Déjà sur cette première partie, je suis arrivée au ravito, au ravitaillement où j'ai retrouvé mon assistance. Je me suis dit, je m'attendais pas à prendre si peu de plaisir finalement.
Et ouais. Donc, c'est le seul point de passage là, le kilomètre 29, c'est le seul moment où tu peux retrouver l'équipe qui est avec toi, c'est ça? C'est ça. Déjà très bénéfique, enfin, t'as déjà besoin de ce soutien et de les savoir là ou...
Ouais, je ne pensais qu'à ça sur les derniers kilomètres avant d'arriver à ce kilomètre 29. Je ne pensais qu'à ça, besoin de me réchauffer, boire une soupe. Le réconfort de voir des gens que tu connais, c'est vrai qu'on voit sur des ultras, sur les courses longues, avoir du monde au ravito, c'est indispensable, hein. C'est pas la même course quand t'as personne et quand t'as du monde. Donc effectivement, j'étais vraiment focalisée là-dessus. Je pense que tu te retiens quand t'es pas bien comme ça, tu te retiens à des tout petits détails qui peuvent t'apporter un tout petit plus de confort en fait. Et rien de me dire que j'allais avoir du monde, voilà, ça pourrait me redonner le sourire et un petit peu me permettre de positiver et puis avoir quelques mots qui aussi pourraient me rassurer parce que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Revoir Laurent et Cathy qui connaissent très bien le parcours. J'avais envie qu'ils me disent « Non, mais là, t'as fait le plus dur. Derrière, voilà, ça va dérouler, ça va bien se passer, quoi. »
Et ils t'ont pas vraiment dit ça?
Non, ils m'ont pas du tout dit ça. En fait, ils m'ont dit l'inverse. Ils m'ont dit, c'est bien, maintenant, c'est maintenant que ça commence, c'est maintenant que ça va se compliquer. Donc, honnêtement, à ce moment-là, il n'était pas question que j'abandonne, bien sûr. Tu viens pas en Patagonie, tu fais pas autant de route pour abandonner au kilomètre 29 si t'es encore sur tes deux jambes et si t'as pas de problème physique plus que ça. Mais je m'étais dit, mais comment ça peut être plus dur, en fait? J'étais un peu l'inconnu, donc j'ai un peu beaucoup pris mon temps sur ce ravitaillement en me disant, tu sais pas dans quoi tu te lances après, prends le temps.
Et donc, tu repars le cœur un peu lourd en disant que tu ne les revois plus jusqu'à l'arrivée, j'imagine.
Et
tu repars avec un savant cocktail de branches, de ronces, j'imagine. Tu es confronté à cette nature assez hostile au kilomètre suivant.
Ouais. Je savais à peu près, en visualisant le profil dans ma tête, je savais à peu près ce qui m'attendait. Je savais que je repartais pour une longue ascension rythmée de plusieurs étapes. L'environnement, la végétation évoluait au fur et à mesure de l'ascension, en fait. Et au fur et à mesure qu'on grimpait, ça devenait de plus en plus désert, de plus en plus hostile, de plus en plus... On était pas très haut en altitude, mais tu avais l'impression d'être vraiment en haute montagne à 4000 mètres d'altitude. C'était impressionnant. Les pierriers, le vide, il y a des passages. Je me disais, mais si tu glisses là, c'est terminé, tu t'en sortiras pas. Et puis, une végétation très dense avec parfois l'obligation de se rouler par terre, en fait, pour passer entre les branches. Mais des missions commando, c'est-à-dire que tu es plus sur une course avec un sentier bien tracé, où tu avances en suivant le balisage, ou parfois tu es obligé quand même de marcher parce que la branche elle est un peu sur le parcours. Non, là c'était en fait, il y a un endroit, tu t'arrêtes, tu cherches, mais c'est par où que je passe, et tu vois le balisage, tu vois au loin, tu vois le balisage, tu dis ok, donc là je suis là, le balisage est là, mais par où je vais passer? En fait, c'est toi presque qui dois te frayer ton chemin et toujours en train de te demander si t'es vraiment sur le bon parcours.
Et t'as pas de point de repère vraiment, tu vois personne devant toi, enfin, t'es en improvisation totale.
Quand je suis repartie du ravitaillement au kilomètre 29, je suis repartie avec un gars du kilomètre 100, puisqu'on était sur deux, il y avait deux distances, un 100 km et un 70. En fait, ils étaient partis en même temps que nous. Et donc, je me suis dit, essaie de t'approcher et au moins, tu ne seras pas toute seule, sauf qu'il allait un peu trop vite pour moi. Et du coup, je n'ai pas réussi à rester à son niveau. J'ai essayé de le garder en ligne de mire, mais en fait, c'est encore pire quand tu es plus concentré sur le parcours et que tu essaies de te rapprocher à quelqu'un qui finalement, que tu vas perdre très vite de vue. J'ai fait l'erreur d'essayer de suivre quelqu'un au lieu de suivre un balisage et ça, c'est vraiment pas la chose à faire. Et en fait, après, je me suis retrouvée seule. Il y avait des écarts, la féminine derrière moi était, je crois, à 2-3 heures donc, à l'arrivée. À l'arrivée, il y avait des écarts entre les... J'ai terminé deuxième avec la première. On avait peut-être... Ouais, je n'ai pas les chronos en tête, mais elle avait peut-être 2 heures d'avance sur moi. Et il y avait peut-être 2-3 heures entre moi et la troisième féminine. Donc, tu vois...
Ouais, des énormes écarts.
Des énormes écarts, ouais. Parce que là, t'es plus. En fait, on n'a plus du tout la même notion. L'évolution n'est pas du tout la même. T'es sur un rythme tellement lent parce qu'il y a plein d'endroits où tu ne peux pas du tout courir. T'as pas les capacités. Étant donné que tu cherches ton chemin, que tu dois des fois ramper, que tu dois constamment te baisser pour passer en dessous les branches, que tu dois que tu glisses, c'est vraiment pas les mêmes repères en fait au niveau du temps.
Ouais, ça amplifie les écarts d'autant.
Ouais.
Et donc là, se profile au loin la grosse difficulté de la course, la grosse parmi toutes les nombreuses qu'il peut y avoir, une ascension assez technique sur un glacier, c'est ça?
Ouais, en fait, à chaque fois dans cette ascension, tu te disais, c'est bon, j'arrive au sommet, t'arrives au sommet, tu levais la tête, et non, il y avait encore, tu voyais encore les petits points, je me rappelle, les petits points, c'était les gens qui étaient très loin devant moi, en fait, et ça me paraissait très, très loin. Après, c'est toujours ça en ultra, c'est vrai, quand tu commences à lever la tête et regarder au-dessus de ta tête, ça peut être un peu démoralisant, donc faut pas trop le faire, mais là, j'ai pas pu m'empêcher de le faire plusieurs fois, et il y avait très peu de bénévoles sur le parcours, hein. Tu pouvais évoluer des fois sur des portions de 2 heures, 2-3 heures, sans jamais voir personne. Et les quelques ravitaillements qu'il y avait, c'était des tentes 2 secondes au milieu de nulle part avec 2 chiliens à l'intérieur qui te donnaient 3 cacahuètes. C'est vraiment minimaliste au niveau du ravitaillement. Et c'est vrai que ouais, là, cette difficulté, la fin de l'ascension s'est faite sur un glacier avec les pas glissants, avec le vent en pleine face devant nous, glacial. Vraiment, j'ai souvenir de plus sentir mon visage, en fait, tellement j'avais le froid aux joues, à la bouche, aux oreilles. Je ne sentais plus mes oreilles, j'ai l'impression qu'elles étaient tombées. J'avais les mains dans mes manches. Il y a une photo où c'est vrai qu'on voit bien, j'ai ma veste et les mains dans mes manches. Que mes gants étaient trop trempés, ça me faisait encore plus froid, en fait, donc j'avais enlevé mes gants. Et dans ces moments-là, en fait, tu sais plus du tout comment te réchauffer. Tu souffles dans les mains, enfin, t'essayes un peu toutes les techniques, mais il n'y a pas grand-chose qui passe. Il faut juste avancer en se disant surtout jamais s'arrêter, parce que c'est le moment où tu t'arrêtes que tu prends des risques. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que je prenais énormément de risques. Que là, on n'était plus dans une course où tu es dans un dépassement en termes de performance, mais tu es plus dans une prise de risque, un danger hein, pour ta vie, simplement, quoi.
Donc, et parce que là, s'il se passe quelque chose, en gros, personne peut venir à toi rapidement. Enfin, t'es inaccessible.
Non, là, tu peux. Si tu t'évanouis, si tu fais une hypothermie ou même une hypoglycémie, ce que je t'avais raconté quand on avait échangé avant, mais c'est que l'année d'après, il y a eu un décès. Il y a un coureur qui est décédé d'hypothermie et il a dû lui arriver. J'ai pas eu exactement les précisions de son décès, mais a priori, il a fait une hypothermie et personne n'a pu venir le chercher, puisqu'en fait, tu dois avoir un téléphone sur toi, mais il n'y a pas de réseau. Et sinon, on n'a pas de balise, en fait. Donc, t'es pas du tout suivi sur la course. Donc, ton assistance ne peut pas suivre ton évolution de la course. Alors, à l'époque, c'était comme ça. Hein. Peut-être que les choses ont évolué depuis, puisque moi, j'ai participé à la première édition et je pense qu'ils ont dû renforcer la sécurité des coureurs et probablement aussi l'équipe de bénévoles, parce que c'est une course qui nécessite quand même un peu plus d'encadrement et de prise en charge. Mais voilà, à cette époque-là, on était seul en pleine nature et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y avait dans le matériel obligatoire tout ce dont il nous fallait pour se soigner si jamais il nous arrivait quelque chose, quoi.
Et donc toi, la chose dont tu souffles le plus à ce moment-là, c'est quoi? C'est le froid, la peur, la souffrance physique ou même la solitude, ou c'est un peu tout ça?
Ouais, c'est tout. C'est vraiment tout, une espèce de mal-être, d'angoisse, peur. Tu sais, la boule au ventre que tu as, que tu dois pas avoir en course normalement, parce qu'on course parce qu'on est passionné, on course parce qu'on aime ça, on court parce que ça nous fait du bien, on court parce que être au grand air, c'est du bonheur. Et là, j'étais à l'inverse de tout ça, en fait. J'étais vraiment dans une angoisse, une peur, comme un cauchemar, où je me disais quand est-ce que je vais me réveiller et surtout comment je vais arriver à bout de ce chantier. Et j'avais vraiment en tête une seule chose, j'essayais de visualiser l'arrivée et me retrouver avec l'équipe, me réchauffer. Et du coup, tu passes un peu en mode automatique, en mode robot, un pas après l'autre. Et honnêtement, j'ai même pas profité du paysage. Pourtant, c'était incroyable, hein, parce qu'il y a pu visionner un petit peu les vidéos et les photos. Mais dans un endroit où il n'y a que là-bas où tu peux voir ça. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment tellement mal que voilà, je pensais qu'à une chose, c'était arrivé. Et la façon d'arriver, c'était d'avancer, jamais m'arrêter. Donc, je suis tombée, mais des centaines de fois.
Oui, la descente tombée, après le glacier était assez technique, de ce que j'ai compris, très glissante. T'as passé ton temps par terre.
C'est ça, très glissante parce qu'elle était enneigée, neige bouillie un peu haut en même temps. Et puis après, une fois qu'on était un peu plus descendu, on est passé de la neige à une sorte de végétation boueuse, comme des tourbes un peu, tu sais, la tourbière là. Mais ouais, tu avances vraiment tout doucement et du coup, l'évolution de la course ne se fait pas au rythme que tu aimerais et c'est frustrant. C'est frustrant et en plus, tu t'énerves et c'est encore, tu rentres vraiment dans une spirale négative où tout est contre toi en fait. Il n'y a rien qui va, t'avances pas, t'as froid, t'as faim, tu vois personne.
Et puis là, peut-être petit à petit, un de tes objectifs, un sous-objectif en tout cas, c'était d'arriver à t'extraire de cette course avant la tombée de la nuit. Et là, tu commences peut-être à te dire aussi que ça va être compliqué et que tu vas devoir faire une partie du parcours de nuit parce que ça prend plus de temps que ce que tu imaginais.
Exactement, il y avait ça, il y avait essayer d'avancer le plus possible pour faire le moins de parcours de nuit. Donc c'est vrai que j'avançais un peu tête baissée en me disant tu sors la frontale au dernier moment. Puis en plus, le moins de mouvement me donnait froid parce que quand t'as le froid sur toi, c'est vrai que t'es en général assez figé. Donc j'ai attendu vraiment qu'il fasse noir pour sortir ma frontale. Et j'avais vraiment rien pour moi parce que je me suis retrouvée avec deux frontales qui ne fonctionnaient pas. Tant dire que ça a rajouté encore plus de peur et d'angoisse dans ce cauchemar qui ne s'arrêtait pas.
C'est la pile qui a pas tenu ou...
Ben, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors, je pense que le froid, l'eau aussi, l'eau glacée, ouais. Pas forcément plus à mes frontales. Est-ce que je n'ai pas assez vérifié avant de partir aussi? En fait, en toute honnêteté, je ne pensais pas avoir trop besoin de ma frontale. J'avais anticipé, enfin objectivé moins de temps que ce que j'ai fait. Donc, sur mon plan de course, je n'aurais pas eu besoin de beaucoup de ma frontale. Donc, c'est vrai que ce n'était pas forcément un point. J'ai pas forcément insisté, donc elle était peut-être pas assez chargée. Enfin, à ce moment-là, j'avoue que je me suis pas trop posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'étais plus dans le fait le constat
de résoudre le problème.
Elle marche pas, j'ai pas de lumière, je suis dans la nuit, qu'est-ce que je fais?
Ton GPS t'avais lâché aussi un peu plus tôt?
J'avais plus de montre, en fait, j'avais plus rien, j'avais pas de téléphone. Donc, au départ, je me suis dit, si j'ai mon téléphone, avec la lumière de mon téléphone, peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose. Mais non, en fait, j'avais vraiment rien. Plus de lumière, plus de montre. Téléphone, j'étais seule au monde dans un environnement, je ne savais pas du tout où j'étais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai crié en fait à ce moment-là. Je désemparée en fait, tu sais, ce moment où.
Le dernier recours.
Ouais.
Il ne restait plus que ça vraiment, à ce moment-là. Ouais.
Ben, en fait, je me suis dit, si t'es sûre d'être sur le parcours, parce que j'étais même pas sûre d'être sur le parcours parce qu'il n'y avait plus de balisage, tu peux toujours choisir l'option d'attendre. Qu'un concurrent te rattrape et du coup tu avances avec la lumière du gars ou éventuellement la fille. Sauf qu'il faisait vraiment trop froid et en fait le fait de s'arrêter c'était pas possible. Il fallait que j'avance vraiment pour me réchauffer et puis avancer. Est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que dans la nuit ça va être pire en fait? Je vais aller à un endroit où plus personne va pouvoir me retrouver. Donc tu sais dans ta tête tu fais tous les scénarios. Et en fait, la seule chose qui est sortie au bout d'un moment, c'est je vais crier à l'aide, au secours, et peut-être avec un peu de chance, il va y avoir quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, je ne le savais pas parce que ma montre, j'étais complètement déconnectée on est dans une sorte de bulle déconnectée du temps et des lieux à ce moment-là. Et en fait, j'étais pas loin du ravitaillement d'après. Et ce qui fait que les Chiliens m'ont entendu et donc on fait écho à mon cri. Et
la
ce qui
délivrance m'a, pour bien, toi, j'imagine.
Ouais. Tu peux pas imaginer. Ouais, c'était vraiment un réconfort en fait de savoir que j'étais pas toute seule ici. Et que j'allais passer à une étape d'après et que j'allais pouvoir alors c'était pas encore à la fin du cauchemar hein, parce que je savais que j'étais pas arrivée, mais au moins de retrouver du monde et peut-être trouver une solution à ma frontale. Moi c'était incroyable et donc au son de la voix j'ai réussi à les rejoindre. Ça a pas été chose facile hein. Je sais pas combien de temps j'ai mis entre le point où j'étais pour les retrouver parce qu'il faisait nuit complète, donc je ne voyais rien, mais au fur et à mesure je voyais une petite lumière parce qu'ils avaient fait un feu. Donc, c'est ce qui m'a permis d'aller jusqu'à eux. Donc,
tu leur es tombé dans les bras?
Ouais, c'est ça en plus parce qu'ils ont compris que j'avais pas de lumière. Donc, ils ont un peu halluciné en voyant arriver dans le noir. Et j'ai expliqué comme j'ai pu, puisqu'en plus, il y avait la barrière de la langue. Ils ne parlaient pas anglais. Moi, je parlais pas non plus leur langue. Enfin, tu vois, c'était vraiment pas facile. Mais ils ont vu que j'étais vraiment désemparée. Et je pense qu'ils ont vu l'angoisse dans ma façon de parler et dans mes yeux. Et en fait, ils ont compris que j'avais pas de frontale. Donc, ils m'ont prêté leur frontale.
D'accord.
Donc je leur ai promis que je leur rendrais le lendemain, je sais pas comment, mais je leur ai donné la mienne en échange. la mienne qui ne fonctionnait pas, mais je m'étais dit, si je ne la retrouve pas, au moins, voilà, je prends la leur, je leur donne la mienne. Bon, j'ai perdu au change dans l'histoire, parce que la mienne était perfectionnée. D'ailleurs, ils l'ont gardée, au final, on ne s'est pas retrouvés à l'arrivée.
Mais tu étais bien contente de trouver quand même cette frontale.
Ouais. Et je m'étais dit, en fait, au départ, que si j'avais pas de frontale, je resterais avec eux. Mais même ça, c'est une option que tu peux pas vraiment envisager, puisqu'ils te laissent pas rester avec eux. Je sais pas comment ça se serait passé si j'avais pas eu de frontale, parce que, sur le fait qu'il fasse très froid,
écoute, là, il te reste quoi, à peu près une dizaine de kilomètres avant d'arriver?
Il restait, 13-14 kilomètres à peu près, à ce moment-là. Parce que c'était le 53, il me semble.
D'accord.
Ouais, non, 17 donc, parce qu'il me semble que j'ai pas le profil sous les yeux ni trop en tête, mais de mémoire, il restait pas énorme non plus. Mais j'avais bien compris et réalisé qu'en fait, 10 km comme tu fais dans les Alpes et quand tu as ta ligne droite à l'UTMB, c'est pas du tout les 10 km que tu vas trouver là-bas en Patagonie en fait. Donc je savais très bien que ça pouvait être encore 3-4 heures de course. Donc, j'étais pas forcément dans ce positivisme en me disant il me reste plus que 13 km, parce que je savais que dans tous les cas, c'était pas encore gagné et que j'étais pas encore arrivée, quoi.
Donc, tu trouves quand même le courage de te lancer pour mettre un pied devant l'autre et aller jusqu'au bout.
C'est ça.
Il se passe comment ces 17 derniers? Tu as les mêmes préoccupations, inquiétudes de savoir si tu es sur la bonne route? Je pense que c'est ça. Tu t'es un peu écarté du chemin à un moment, si j'ai bien suivi ton récit.
Oh, oui. Alors, sur le moment, y a un soulagement quand même qui t'enlève un poids. Je me sentais un peu plus détendue puisque j'avais de la lumière quand même. J'avais retrouvé les balisages. Je savais que j'étais sur la bonne route. Donc, voilà, tu souffles un bon coup. Tu dis, bon, ça va bien se passer. Je prends mon temps. Et en fait, j'étais complètement déconnectée du classement et de la partie performance, ça pour le coup j'étais vraiment avec un objectif en tête terminé et peu importe à quel classement.
Et physiquement à ce moment-là t'es bien, t'as pas de signes physiques de fatigue spécifique, c'est plus une pression psychologique et
exactement, dans lequel tu mais es. sauf que cette pression te fatigue, hein. C'est usant en fait, hein. C'est vraiment usant d'être toujours dans cette situation d'inquiétude, d'incertitude et d'angoisse. Donc quelque part à ce moment-là je m'en rends pas compte, mais en fait j'avais des douleurs au niveau des chevilles. En fait, je m'étais tordue de nombreuses fois la cheville, mais à ce moment-là, tellement un peu en mode survie que ces petites douleurs, elles passent après tout le reste, quoi. Mais finalement, j'étais pas si mal parce que j'arrivais à avancer, j'étais pas en hypo non plus. Je m'étais dit, bon, tu vas réussir à terminer, mais c'est vrai que les chemins étaient tellement très mal balisés qu'en plus, avec la frontale qui éclairait pas très bien, parce qu'il m'avait donné une frontale, mais qui marchait pas terrible, j'avais du mal à voir les balisages, tu sais, comme c'est quand tu vois pas avec ta frontale, tu fais haut et bas avec la tête pour essayer de trouver les balisages phosphorescents, parce qu'en plus ils les mettaient en hauteur dans les arbres, des petites brindilles qui faisaient la lumière en fait avec la frontale qui
réverbérait. C'est un complot, ils faisaient tout pour compliquer la tâche.
Ben c'était, alors après c'était volontaire, hein. c'est pas vraiment un trail, hein. C'est un raid qu'ils ont fait et c'est volontairement très difficile, très exigeant, parce que l'organisateur a voulu faire de cette course quelque chose de hors norme finalement, pour faire vivre aux coureurs une expérience différente. Mais c'est vrai que quand tu te lances là-dedans sans savoir exactement ce qui t'attend, tu peux vivre les choses très mal, comme je l'ai vécu. Après, c'est vrai que si j'avais pris le départ préparé et en sachant ce qui m'attendait, peut-être que, ne serait-ce qu'au niveau équipement, tu vois, je serais partie peut-être un petit peu mieux préparée. Et puis après, c'est aussi, on parlait de l'importance du mental, c'est que quand tu sais, ton cerveau est préparé à ce que tu vas trouver, je pense que tout est différent. Donc la fin de course, ouais, a été en fait, j'avançais sans trop savoir si j'étais sur le bon chemin. À un moment donné, je voyais plus de balisage et en fait, j'ai commencé à avoir des hallucinations. Je voyais des gens, parce que je pense que je voulais tellement voir des gens que je commençais à les imaginer. Donc je suis passée un peu par tous les états jusqu'à finalement me retrouver face à une vraie personne qui était un coureur mais qui avançait dans le sens inverse.
D'accord. Donc lui ou toi, il y en a un des deux qui n'était pas dans le bon sens.
Voilà. Il y a Bien sûr, je me suis douté que ça devait être moi qui n'étais pas dans mon
sens. C'était forcément Gaston Lagaffe, évidemment.
Forcément, voilà. De toute façon, c'était pas mon jour. Et j'ai essayé d'engager une discussion, mais je suis tombée face à un coureur qui était, je pense, dans la compète, dans la performance, et qui comprenait vraiment rien à ce que je lui disais, qui n'était pas du tout dans la collaboration. Donc, malheureusement pour moi, il m'a pas trop aidée. Et quand il a vu qu'on n'arrivait pas à se comprendre, ça l'a un peu agacé, donc il est parti.
Sympa.
Du coup, je me suis dit, bon, Mais c'est peut-être le 100 miles, en fait, le 100 miles qui finalement est parti la veille et peut-être que c'est pas la même course, donc je vais pas repartir dans l'autre sens parce que je me suis imaginé retourner là-bas. Pour moi, c'était inconcevable que je refasse encore plus de route. Donc si je vais continuer dans ce sens-là, c'est pas possible, je me suis pas trompée. Et puis quelques minutes plus loin, alors je sais pas évaluer le temps, j'avais pas de montre et honnêtement, j'étais vraiment déconnectée du temps. Je suis encore retombée sur des coureuses et là pour le coup, on a réussi à se comprendre et elles m'ont vraiment expliqué que j'étais pas dans la bonne direction. ça faisait donc un petit moment que je courais dans la mauvaise direction, en fait. Je sais pas ce qui s'était passé. J'avais, en cherchant mon chemin, j'avais dû faire un 360 degrés. Et du coup, j'étais partie dans la mauvaise direction. Ce qui fait qu'elles m'ont sauvée quelque part parce que ma frontale marchait plus du tout. Du coup, je me suis vraiment collée à elles derrière et j'ai fait en sorte de pas les lâcher. C'était les premières concurrentes, première et deuxième du 100 km, en fait. D'accord. Avec qui j'ai terminé. Okay. Des Américaines, me semble-t-il, qui allaient un peu vite pour moi. Donc, c'est vrai que j'avais vraiment peur de les lâcher. Je m'étais dit, c'est ma seule chance, c'est vraiment de me coller à elles. Et voilà, ça s'est terminé avec un peu moins d'anxiété parce que le fait de ne pas être seule, je pense qu'il y a ça aussi qui a beaucoup joué dans les humeurs et dans cette façon dont tu vois la course. Dans un environnement comme celui-ci, être seule, c'est dur, quoi. Tu te raccroches à rien, rien du tout, en fait. Tu es toujours dans l'angoisse qu'il t'arrive quelque chose. Donc, rien que de retrouver du monde, tu es quand même dans un autre état d'esprit.
Et donc là, tu franchis la ligne d'arrivée. La première chose que tu as envie de faire à ce moment-là et que tu fais, c'est quoi ?
Pleurer.
D'accord, tu t'écroules.
J'ai pleuré.
Tu lâches toute la pression.
Ouais, complètement. Ouais. Je me suis jetée dans les bras de Cathy. Pour être honnête, ils étaient très, très, très. Ils avaient très peur pour moi. Ils étaient très inquiets de ne pas me voir arriver, toute l'équipe d'assistance. Laurent et Cathy ont vraiment regretté de m'avoir emmenée ici parce qu'ils avaient peur qu'il m'arrive quelque chose. En fait, ils connaissaient hein, l'environnement, donc ils savaient que ce serait compliqué pour moi. Moi, à la base, je ne suis pas une aventurière. 2015, j'avais fait que la CCC comme course de montagne. Moi, j'étais plutôt une coureuse type Saint-Élion et Cotterêts de Paris, tu vois, que tout cet environnement montagne
était pas radical comme changement, oui.
Complètement. C'est une expérience qui était pour moi inconnue, donc c'est vrai que sur le coup, ils se sont dit, mais on a peut-être fait une erreur, quoi. On a fait une erreur, on l'a emmené là, et si ça se trouve, il lui arrivait quelque chose, donc ils étaient très très inquiets, ça faisait déjà des heures qu'ils m'attendaient. Et ils n'avaient pas de nouvelles du tout. Donc, pour eux, ça a été un énorme soulagement de me voir arriver. Et ils étaient autant heureux que moi. Et c'est vrai qu'on a tous pleuré. je me suis jetée dans les bras de Cathy. Et en fait, j'ai tout relâché. Alors, ce n'était pas des pleurs, c'était pas des pleurs de déception. Ce n'était pas des pleurs de tristesse. C'était des pleurs où, tu sais, t'as toute la pression qui sort. Quoi.
Du vraiment, soulagement.
Soulagement, ouais. Vraiment du soulagement. Et ça y est, quoi, le cauchemar, c'est terminé. Ça y est, je suis en vie. Vraiment, c'était ça. Ça y est, je suis en vie. J'ai terminé. Je l'ai fait. Je suis en sécurité.
Et tu as eu la possibilité, enfin, l'opportunité de confronter ton ressenti, toi, de la course avec d'autres coureurs. Est-ce que tout le monde l'a vécu de la même façon que toi, avec la même intensité ?
Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est vrai qu'on était tous unanimes sur le côté incroyable de l'aventure, sur le fait que ce soit vraiment une expérience hors norme, un truc qu'on vit que ici. Et ça a été très dur pour tout le monde, vraiment. On en a parlé à l'arrivée. Après, on l'a tous vécu un petit peu différemment. Moi, c'est vrai que le fait de ne pas avoir eu de frontale, ça a rajouté un peu beaucoup d'angoisse à l'évolution sur la fin du parcours. Xavier est quelqu'un qui aime beaucoup, en fait, en général, cet environnement. Mais même lui, il pourra peut-être te le raconter, mais même lui, ça a été très compliqué pour lui. Tu vois, il me l'a dit, il y est retourné avec Benoît Girondel 2 ans après.
D'accord.
Et il a vécu les choses de la même manière et il me l'a redit qu'il y retournerait pas parce que, voilà, il avait envie d'y retourner pour se reconfronter au parcours en l'ayant fait déjà une fois.
Il n'a pas eu envie il n'a pas réussi à te convaincre de replonger une deuxième fois.
Ah non, moi c'était pas...
Hors de question.
Inconcevable, non, ouais. Inconcevable que j'y retourne. J'ai vraiment pris aucun plaisir et je me suis surtout rendu compte que j'avais franchi des limites que aujourd'hui je m'interdis de franchir. Hein. Je fais pas de la course à pied pour vivre ça. Alors il y a des gens qui aiment être vraiment prendre autant de risques. Ouais, sur le fil, mais je pense notamment aux gens qui font de l'alpinisme. Hein. Ils prennent des risques un petit peu dans ce style-là, mais non, moi, c'est pas.
Ils cherchent ça finalement.
Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, c'est pas comme ça que je conçois ma passion. Donc, j'aime bien le dépassement et j'aime bien aussi vibrer quand t'es dans des situations un petit peu inconfortables. Voilà, c'est ça. J'aime l'inconfort. Mais quand tu dépasses l'inconfort pour aller dans vraiment le danger, la prise de risque, là, non, je cautionne pas et voilà, je tiens trop à la vie pour prendre autant de risques. Et puis surtout, voilà, mon but avant tout, c'est de me régaler. Et là, j'ai pas pris de plaisir du tout.
Ça a été un révélateur finalement, enfin, ça a orienté peut-être même tes décisions après sur ta gestion, enfin, la façon d'appréhender tes courses d'après et ce que tu recherches dans ta pratique. Ça a été
Alors,
amplifié peut-être par cette ultra fjord qui t'a fait remettre en perspective le pourquoi tu fais ça et ce que tu cherches.
bah c'est toujours pareil, des expériences comme ça où tu vis les choses difficilement, tu en retires toujours du positif finalement, puisque c'est une expérience. Et quand tout se termine bien, tu arrives à en tirer bénéfice. Donc, disons que ça m'a, je pense, renforcée. Parce que quand tu vis des choses comme ça, après, tu peux facilement aller en montagne et prendre une averse de grêle, comme ça m'est arrivé sur la TDS. Et tu sais que quand à la TDS, à un moment un peu dans le Beaufortin, là, j'ai pris la grêle. J'ai repensé à la Patagonie et je me suis dit, mais attends, après ce que tu as vécu en Patagonie, ça c'est rien, ça c'est rien, tu as des coureurs devant, tu as des coureurs derrière, tu as l'équipement nécessaire, pas de panique. Donc tu vois, c'est forcément des expériences qui te renforcent, mais c'est ça, c'est si ça se termine bien. Donc tu as toujours une part de risque au moment où tu es dans l'action, mais bien sûr qu'après tu t'en sers. Et ce que je me suis dit, c'est vraiment savoir dans quoi je me lance, quoi. C'est-à-dire, la montagne, elle est tellement imprévisible, la nature, ça peut basculer. On le voit aussi sur des courses comme à l'UTMB, hein. On peut prendre des grosses chaleurs et puis 2 heures plus tard prendre l'averse et passer du chaud au froid. Donc il faut se préparer à tout ça et savoir que t'es jamais à l'abri en fait. Donc oui, t'en retires des leçons, ça c'est évident.
Ok Sylvain, merci pour cette aventure complètement étourdissante.
Bah écoute, non,
Ça
avec grand
s'arrête jamais.
plaisir.
C'est du début à la fin. J'ai vraiment vibré avec cette histoire et je suis content qu'elle se soit si bien terminée.
Ouais, c'est gentil.
Si on parle juste plutôt de l'avenir, donc à court terme, je pense que tu avais la CCC en ligne de mire, mais il y a un peu d'incertitude sur le fait qu'elle ait lieu ou pas à l'heure où on se parle en tout cas.
Ouais,
D'accord.
c'est vrai qu'on ne sait pas encore exactement quelle sauce on va être mangé pour fin août. Donc, je suis inscrite, j'ai mon dossard, mais voilà, un point d'interrogation pour l'instant.
Soyons optimistes. Et puis derrière, la
Ouais.
diagonale des fous, j'espère que tu pourras venir nous raconter cette aventure aussi et qu'elle aura bien lieu. Voilà, on souhaite tous, coureurs, là, que le calendrier reprenne ses droits, évidemment, si les conditions sanitaires le permettent. Mais voilà, c'est sûr que ça a été une année
J'espère aussi.
particulièrement bousculée.
C'est
Et
sûr.
on a hâte que tu reviennes à la normale dans la vie de manière générale et aussi dans les courses qu'on avait tous cochées à nos calendriers pour les prochains mois.
C'est sûr.
Juste avant de se quitter, pour finir, non pas avec le mot de la fin, mais le motto de la fin, c'est une devise, c'est ton étendard. Est-ce que toi, tu as une espèce de phrase qui te guide un peu dans ton quotidien et dans tous les moments clés de ta vie auxquels tu t'accroches?
Oui, alors il y en a beaucoup, des petites maximes que j'aime beaucoup et dans lesquelles je me retrouve bien. Il y en a une à laquelle je pense maintenant, c'est n'attends pas que l'orage passe, mais apprends à danser sous la pluie. C'est vrai que j'aime beaucoup
Je ne
cette
connaissais pas.
expression. C'est vrai, moi j'aime beaucoup parce que voilà, c'est apprendre à vivre avec les difficultés et puis surtout à les tourner en positif. C'est un peu, ça reflète un petit peu ce que j'ai vécu en Patagonie, quoi. C'est vrai que j'étais sous l'orage à ce moment-là et je m'en suis sortie et aujourd'hui, j'essaye d'en retirer du positif. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. N'attends pas que l'orage passe, apprends à danser sous la pluie.
Merci en tout cas Sylvain d'avoir partagé avec nous cette expérience complètement dingue. C'était haletant de te suivre pas à pas dans cette traversée de la Patagonie absolument épique. Je suis vraiment
Avec
ravi qu'on ait eu
plaisir.
l'occasion de se parler. Merci de ta disponibilité. C'est vraiment gentil. J'imagine que
Avec
tu es beaucoup
plaisir.
sollicité et puis beaucoup d'autres choses à faire. En tout
Non,
cas,
mais c'est
c'était
avec
un
plaisir.
plaisir.
Plaisir partagé, ça m'a permis de me replonger aussi dans ce récit. Et après, j'espère, c'est toujours difficile de mettre des mots sur des émotions et d'essayer de retranscrire tout ça et de raconter, hein. C'est vrai que c'est des choses qui se vivent et qui se racontent pas toujours. Mais voilà, j'ai essayé
Tu l'as très bien fait, en tout cas, on l'a
de
vécu
raconter avec
au plus
sincérité.
près de toi.
Tant mieux.
Merci
Tant mieux.
beaucoup, Sylvaine, c'était un plaisir. Prends soin de toi, bonne fin de confinement. On a hâte de se
Merci,
sortir de tout
pareillement.
ça et à
Ouais.
très bientôt, j'espère.
Merci beaucoup à tous et
Merci,
puis à bientôt
Sylvaine,
alors.
à bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à en parler autour de vous ou encore à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci et à bientôt pour notre prochain épisode.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.